La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'est un écrivain dont le nom est un mythe. Chacun connaît Casanova et on l'associe généralement à la séduction galante et à l'érotisme débridé. Mais peu nombreux sont ceux qui ont vraiment lu les 3700 pages de l'histoire de ma vie, cette somme de littérature qui fait de Giacomo Casanova un grand auteur de son temps, lequel a travaillé sans relâche à la mise en forme de son récit de vie durant ces dernières années, ces années de retrait et de plaisir plus chaste. Il y a eu deux vies parallèles dans celle de Casanova, celle du libertin et celle de l'érudit, et nous allons les questionner toutes les deux jusqu'à jeudi. Jeudi, où nous tenterons avec l'écrivaine Chantal Thomas de définir le casanovisme, qui n'est pas du sadisme ni même du donjuanisme. Nous parlerons également des années parisiennes de l'écrivain et de l'épisode de la Charpillon. La veille mercredi, c'est de Casanova, entrepreneur, aventurier et parfois filou, dont il sera question. Ce sera avec le chercheur Guillaume Simian. Enfin, demain, nous reviendrons sur son grand texte, Histoire de ma vie, à la fois pour raconter le parcours du manuscrit et pour en parler d'un point de vue littéraire. Nous serons pour ce faire avec Jean-Christophe Igalens. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Casanova, nous sommes avec Maxime Rovert, universitaire, philosophe, spécialiste de la pensée de Spinoza, mais également de celle de Giorgio Agamben, traducteur de plusieurs textes d'Edith Wharton, dont il nous a parlé la semaine dernière, et auteur, il y a quelques semaines, d'un brûlot intitulé « Que faire des cons ?» aux éditions Flammarion. Mais si nous le recevons aujourd'hui, c'est parce qu'il a publié en 2011 la biographie de Casanova dans la collection Folio Biographie des éditions Gallimard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Il ne m'est rien arrivé de malheureux dans toute ma vie que par ma faute. Et j'attribue aux combinaisons presque tous les bonheurs dont j'ai joui. Ce qui, à la vérité, est un peu injuste et humiliant, mais tel est l'homme. Je deviendrais fou, je crois, si dans mes soliloques je me trouvais malheureux sans qu'il y eût de ma faute, car je ne saurais où aller la chercher, à moins que je ne dusse m'avouer bête. Je sais de n'être pas bête.
Un court extrait d'Histoire de ma vie de Casanova, lu par Éric Dufay. Bonjour Maxime Rovert.
Bonjour Mathieu.
Alors on peut dire, c'est vrai que la vie de Casanova a été une vie heureuse, en dépit ou peut-être à cause des nombreuses péripéties qu'elle a connues, qu'elle a engendrées.
Oui, on pourrait dire que Casanova, c'est un peu le mythe de l'homme heureux moderne, hein, le mythe moderne de l'homme heureux, c'est-à-dire en fait un bonheur qui est un bonheur d'abord changeant, plein d'émotions différentes, variées, intenses. Donc c'est aussi l'une des grandes figures de l'intensité telle qu'on la valorise aujourd'hui. Et on oublie en fait en partie ce que cette intensité avait aussi de négatif, ces longues plages d'ennui, ces longs moments de désespoir qui ont touché beaucoup plus les Italiens que les Français. Donc il y a beaucoup de Casanova, mais en particulier les contrastes sont flagrants entre le Casanova italien, celui qu'on devine par exemple dans le Casanova de Fellini, où le film montre un personnage quand même régulièrement habité par ses démons et donc sombrant dans une sorte de folie désespérée, et le Casanova français tel que nous le voyons nous, et qui est plutôt donc cet homme rêvé, cet homme rêve, qui serait éternellement sautillant, quoi.
Et vous, c'est comme ça que vous avez choisi de le voir ?
Non, moi j'ai rencontré Casanova presque par hasard en fait, en réfléchissant à à la question du récit de vie, c'est-à-dire que ce que nous savons de Casanova vient massivement d'un livre qui s'appelle « Histoire de ma vie », et ce livre est à la fois de la littérature et en fait une sorte d'auto-histoire extrêmement minutieuse qui a été établie d'après des notes que Casanova tenait au jour le jour. Et donc c'est un travail absolument fascinant de se plonger dans ce texte tout en essayant de déterminer, je dirais, le vrai et le faux.
Alors justement, comment faire, puisque l'essentiel des sources sont de nature autobiographique, quand on est biographe comme vous, comment est-ce qu'on s'empare de cette vie qui est romancée par l'auteur même ?
Alors d'abord, il faut savoir que c'est un enfer absolu. C'est-à-dire que Casanova est extrêmement précis, mais en même temps, il est doublé d'un menteur et est doublé aussi d'un excellent historien. Donc, en gros, un excellent Casanoviste qui s'appelle Helmut Watlawitz a bien résumé les choses en disant que lorsqu'on ne le croit pas, on se trompe presque toujours. Donc, la grande difficulté, en réalité, c'est de repenser notre rapport à la vérité, justement en termes du désir qui est en nous et qui nous a mis à sa recherche. Et souvent, Casanova est capable de vous faire renoncer à la vérité en vous offrant celle que vous étiez venu chercher, ou bien en lui substituant une autre qui est encore plus belle. Donc il y a un jeu comme ça de cache-cache entre l'historien et l'écrivain qui fait qu'à la fin, on en vient à faire, et je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma biographie, on fait l'histoire du récit que Casanova a donné de sa vie.
L'histoire d'un jeu aussi, parce que la notion de jeu, c'est tout Casanova, le jeu de cartes pour commencer, mais aussi le jeu du brouillage des pistes.
C'est ça, en fait le jeu chez Casanova, c'est vraiment la définition même de la vie, le vivant, mais aussi l'humain. Mais même le divin, en fait, se définissent comme perpétuellement à la lisière du hasard.
Voilà. Il faut suivre ce hasard.
Voilà, il faut suivre le dieu, suivre le dieu hasard, se fier à la déesse fortune, parce que c'est justement en s'y abandonnant qu'en réalité on en reprend. Alors non pas le contrôle, mais je dirais la bienveillance. Voilà, et attirer à soi la bienveillance de la fortune, c'est tout l'art de Casanova.
Et de saisir l'occasion. Il y a quelque chose d'extrêmement instinctif dans la personnalité de Casanova qui fait qu'il est dans un courant et qu'il sait saisir ce qui se présente à lui un peu dans tous les domaines.
Alors sur ce point, je crois que vous visez très juste parce que j'ai présenté tout à l'heure Casanova comme une sorte d'incarnation d'un nouveau mythe qui serait celui d'une vie perpétuellement intense. Mais il y a aussi un Casanova profondément philosophe, qui est justement ce Casanova un peu déconstruit, ce Casanova qui est capable de concevoir sa vie avec les événements eux-mêmes. À mesure que les événements se produisent, il recompose en fait les perspectives qui s'offrent à lui et il essaye de les saisir.
Et donc c'est du stoïcisme, cette philosophie-là, par
quelque
exemple.
Part entre le stoïcisme et Aristote, c'est-à-dire l'Aristote du Kairos, du moment opportun, mais aussi du Machiavel, hein, avec ce rapport entre l'occasion et le moment. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui laisse un peu la vie décider sans pour autant se laisser complètement entraîner. Donc il y a un dialogue très beau entre, l'affirmation de soi et la gratitude, en fait. C'est pas un self-made man, c'est quelqu'un qui se laisse construire par la fortune et qui l'en aime d'autant plus.
Est-ce que c'est la même chose avec l'écriture ? Est-ce que l'écriture arrive à lui autant qu'il va la chercher ?
Alors, pour le coup, l'écriture et l'histoire de Casanova avec l'écriture est beaucoup plus douloureuse pour lui, puisqu'en réalité, il a passé quasiment toute sa vie à vouloir être un grand écrivain. Et il faut imaginer qu'il a attendu jusqu'à 70 ans avant de faire réellement ce que nous considérons sa grande œuvre. Donc en fait, vous avez affaire à quelqu'un qui sait, qui a cru en lui, qui s'est considéré lui-même comme un grand écrivain, alors qu'en réalité, il voyait bien que aucune de ses œuvres n'était à la hauteur de l'image qu'il avait de lui-même. Et curieusement, c'est au moment où il y renonce, au moment où son médecin lui dit, mais parce que Casanova, à cette époque, essayait de résoudre un problème mathématique extrêmement complexe qui s'appelle la duplication du cube, et il entre, pour ainsi dire, en dépression, au désespoir de ne pas voir aboutir ses derniers efforts philosophiques. Et son médecin lui dit, mais bon, arrêtez, puisque vous avez une vie si palpitante, pourquoi ne la raconteriez-vous pas ? Et c'est là qu'il fait son chef-d'œuvre.
Ma mère me mit au monde à Venise, le 2 d'avril, jour de Pâques de l'an 1725. Elle eut la veille une grosse envie d'écrevisses. Je les aime beaucoup. Au baptême, on m'a nommé Jacques Jérôme. Je fus imbécile jusqu'à 8 ans et demi. Après une hémorragie de 3 mois, on m'a envoyé à Padoue, où, guéri de l'imbécilité, je me suis adonné à l'étude, et à l'âge de 16 ans, on m'a fait docteur et on m'a donné l'habit de prêtre pour aller faire ma fortune à Rome. À Rome, la fille de mon maître, de langue française, fut la cause que le cardinal Acquaviva, mon patron, me donna mon congé. Âgé de 18 ans, je suis entré dans le militaire au service de ma patrie et je suis allé à Constantinople. 2 ans après, étant retourné à Venise, j'ai quitté le métier de l'honneur. Et prenant le morodon, j'ai embrassé le vil métier de joueur de violon.
Un extrait de Précis de ma vie, lu par Enrico Di Giovanni. Alors c'est un résumé par Casanova lui-même des premières années de sa vie. On va les reprendre et les développer avec vous, si vous le voulez bien, Maxime Rovert. Il est donc né à Venise le 2 avril 1725. Ses parents étaient comédiens. Quelle est l'importance de ce milieu de naissance pour Casanova ?
D'une certaine manière, on va voir Casanova au fil des ans parcourir l'Europe. On a l'image d'un grand voyageur, mais en réalité, ce voyage se déroule dans le monde des comédiens. Hein. Partout en Europe, et même jusqu'à Moscou, et de Moscou jusqu'à Lisbonne, Casanova, en réalité, saute d'un théâtre à l'autre et est toujours reçu par les comédiens italiens qui, à l'époque, circulent partout en Europe. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que cette famille de comédiens a accès, c'est d'ailleurs le cas un peu partout, a accès à des couches supérieures de la société, hein, auquel les comédiens sont mêlés. Et donc c'est un statut tout à fait ambigu, puisque à la fois vous n'êtes ni bourgeois ni aristocrate, mais en même temps vous côtoyez les bourgeois et les aristocrates, pour ainsi dire, en permanence. Et Casanova donc va, au lieu de prolonger, je dirais, l'art de ses parents sur scène, il va simplement l'exporter hors de la scène et devenir comme ça une sorte de faux monnayeur dans l'économie sociale de son temps.
Alors sa mère va à un moment donné partir pour Dresde pour être comédienne là-bas. Elle ne va pas emmener cette fois-ci son fils qui va du coup rester avec sa grand-mère puisque le père de Casanova va mourir assez tôt dans sa vie. C'est donc élevé par sa grand-mère qu'il va grandir, Maxime Rovert.
Il y a ces trois figures familiales vont chacune avoir son importance. Casanova voit son père, pour ainsi dire, assassiné par les médecins, hein, et en gardera toujours une fascination pour la médecine.
Lui qui voudra être médecin aussi.
Absolument, puis il aura de bonnes lectures et un sérieux bon sens qui fera qu'il sera réellement capable de venir en aide un certain nombre de fois à ses amis. Donc la médecine gardera une importance parce que, comme ça, par fidélité à cette figure du père mort sous ses yeux. C'est vrai, sa mère le confie à sa propre mère, à elle, qui s'appelle Marzia. Et on pourrait considérer que ça a été une mère absente. En réalité, à l'époque, ce ne sont pas les géniteurs qui élèvent leurs enfants. La grande question pour les géniteurs, c'est toujours de savoir auprès de qui placer l'enfant pour qu'il soit élevé au mieux. Et donc, la mère de Casanova a fait un très bon pari, puisque en le confiant à sa grand-mère, elle lui a donné pour allié, je dirais, une dame qui est à la fois la pure vénitienne, très catholique et un peu superstitieuse, mais en même temps quelqu'un qui a des bons rapports avec des gens qui sont extrêmement bien intentionnés envers son petit protégé. Et donc il y a comme ça cette figure de la grand-mère qui va rester comme une présence féminine enveloppante et protectrice qui garde une importance très très forte dans la vie de Casanova.
Alors si Casanova voudra plus tard être médecin, est-ce que ça n'est pas aussi parce que son enfance est marquée par une étrange maladie qui n'en est pas une, c'est-à-dire qu'il saigne constamment du nez et il va aller voir, alors c'est sans doute sa grand-mère qui l'y amène,
tout à fait.
Une guérisseuse, et ça va avoir une importance pour lui très importante, Maxime Revert.
Oui, parce qu'en réalité, donc, ce petit garçon qui est considéré comme un enfant fragile, qui est susceptible de mourir d'une année sur l'autre et auquel on accorde peu d'attention, d'un coup, lors de cette séance de magie, se trouve mis au cœur de toute une scénographie dont il va percevoir l'efficacité dans son propre corps. Et je crois que ce qui marque Casanova à ce moment-là, c'est moins, je dirais, la cérémonie en elle-même que la réalité de son efficace. Mmh. Et dans tous les montages, tous les charlatanismes dont il va se rendre coupable dans la suite, il faudra toujours se souvenir que Casanova, lui, a vécu dans son corps l'efficacité de cette croyance, l'efficacité de cette confiance, mais aussi de ce soin.
Et cette femme, cette sorcière, va lui dire, alors qu'il est petit, il a 8 ans, tu es maintenant détenteur d'un secret, tu ne dois pas dire ce qui s'est passé entre nous. Et ça aussi, peut-être que ça joue dans son rapport avec quelque chose de l'ésotérisme, par exemple.
C'est vrai, et même avec la littérature, c'est-à-dire que par cette figure du secret, ce que fait la sorcière, c'est qu'elle elle noue une relation de confiance entre eux, puisque ce secret est malgré tout partagé. Et ce qui va être très fort dans la manière dont Casanova raconte les histoires, c'est qu'il est souvent capable de faire en sorte de livrer quelque chose qui devrait être secret à ses interlocuteurs et ses interlocutrices. De sorte qu'on devient en fait son complice ou son confident, ou qu'on entre en fait dans son intimité très facilement, parce qu'en fait, curieusement, c'est en sachant trahir ses propres secrets que Casanova va devenir à ce point séduisant.
Mmh. Il y a une autre personne, un autre personnage dont il faudrait parler dans la jeunesse de Casanova, c'est le poète Baffo, qui est un ami de la famille, Zorzi Alvise Baffo, qui est un poète libertin, scandaleux à l'époque. On peut citer son épitaphe pour se faire un peu une idée de l'ambiance qui l'entourait. La promptitude de son esprit a traversé de maintes manières toutes les phases de son sujet, excuse en quelque sorte l'extrême lubricité de sa poésie. Alors, Baffo, c'est une initiation un univers érotique, ou en tout cas un univers libertin, une initiation au scandale.
Ouais, je pense que c'est surtout le symbole du milieu dans lequel il baignait. C'est-à-dire que Baffo n'est pas seul à avoir cette attitude. C'est tout Venise qui est baignée de cette atmosphère de fête, de libertinage, de mœurs dissolues, comme on dit à l'époque. Et vraiment, Venise, c'est l'endroit d'Europe où tous les Européens viennent faire la fête, la noblesse s'y retrouve. Et Baffo, c'est justement le prolongement de cette tradition qui vient de loin, hein, de l'Aretin et compagnie, et qui fait que Casanova immédiatement comprend le lien qu'il y a entre, je dirais, la liberté de corps, la poésie et quelque chose de collectif, la bienveillance, l'amour, appelez ça comme vous voudrez, mais qui fait que les humains sont bien ensemble.
À l'âge de 12 ans, ma mère, devant partir pour la Saxe avec sa troupe, me fit aller à Venise pour quelques jours avec mon bon maître, le docteur Gozzi. Étant allé à la comédie, ce qui me parut très surprenant fut une fille de 8 ans qui, à la fin de la pièce, dansait le menuet avec des grâces enchanteresses. Cette fille, dont celui qui jouait le rôle de Pantalon était le père, me charma à un tel degré que je suis entré après dans la loge où elle se déshabillait pour lui faire mon compliment. J'étais habillé en abbé et je l'ai vue fort surprise quand son père lui ordonna de se lever pour se laisser embrasser. Elle s'acquitta de très bonne grâce et je fus très gauche. Mais si plein de mon bonheur que je n'ai pas pu me tenir de prendre des mains d'une marchande de bijoux qui était là une petite bague que la petite fille avait trouvée jolie, mais trop chère, et de lui en faire présent. Elle vint alors m'embrasser de nouveau, avec une physionomie remplie de reconnaissance. J'ai payé à la marchande un sequin que la bague coûtait, et je suis allé rejoindre mon docteur qui m'attendait dans une loge. Mon cœur était dans un état pitoyable, car le sequin que j'avais donné pour la bague appartenait au docteur, mon maître. Et malgré que je me sentisse amoureux à la perdition de la jolie fille de pantalon, je sentais avec plus encore de force que je venais de faire une sottise dans toutes les formes, tant parce que j'avais disposé d'un argent qui ne m'appartenait pas, que parce que j'avais dépensé comme une dupe pour ne me procurer qu'un baiser. En devoir de rendre compte au docteur le lendemain de son sequin et ne sachant pas où l'emprunter, j'ai passé une nuit fort inquiète. Mais le lendemain, tout fut découvert et ce fut ma mère même qui donna le sequin à mon maître. Mais je ris encore aujourd'hui de la grande honte que j'en ai eue. J'ai cru finir tout, demandant pardon, disant que c'était l'amour qui m'avait fait commettre cette faute, assurant ma mère que c'était la première et la dernière fois qu'il me ferait commettre. Au mot d'amour, on n'a fait que rire, et on s'est moqué de moi si cruellement que j'ai bien décidé que ce serait la dernière.
La Compagnie des auteurs sur France Culture avec ce passage d'Histoire de ma vie dans la voix de Guillaume Gallienne. C'est un sentimental, Casanova. C'est tout de suite un amoureux, Maxime Rovert.
Oui, et c'est, je crois, ce qu'il y a de plus beau chez lui. Il masque sous la légèreté et sous les, je dirais, les habits ou la nudité du libertinage. Un amour à fleur de peau qu'il distribue très facilement, en fait. Il a le cœur amoureux, il tombe sincèrement amoureux, il se sépare de ses amours en pleurant souvent plus que les femmes elles-mêmes, il essaye de soigner leur avenir, puisque c'est souvent un grand enjeu, en fait, pour elles de se marier, et c'est une considération qu'il a souvent. D'ailleurs, on y pense, on en parle peu, mais Casanova a un peu retardé son entrée dans la scène érotique, justement parce qu'il craignait les conséquences, il avait peur des conséquences de la sexualité sur notamment les femmes.
C'est-à-dire qu'elles tombent enceintes.
Et donc, il y a un Casanova enfant qui va retarder, la découverte de la sexualité, justement par cette peur-là, la peur des conséquences.
Mais en même temps, Maxime Rovert, vous dites bien à certains moments de votre biographie que parfois c'est un peu un petit malfrat avec les jeunes filles. Et il y a des scènes qui sont des scènes qui s'apparentent à des scènes de viol.
Est-ce non, il y a des scènes de viol. Il y a clairement des scènes de viol et des scènes de viol qui sont indéfendables. Hein. Parfois seul à seul, parfois en collectif. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer que le pire des machos pourrait accomplir, Casanova l'a fait. C'est ce qui rend cette figure intéressante, justement du point de vue d'une étude de la domination masculine, puisqu'en réalité, on voit très bien comment chez un même individu alterne des moments où il se sent lui-même l'un des dominés, et c'est en fait dans l'horizon de cette domination qu'il se sent proche des femmes et qu'il va être leur allié sincère et qu'il va, pour ainsi dire, chercher à partager son propre effort vers la liberté. Donc ça, c'est, le Casanova féministe. Et puis, de temps en temps, le processus s'inverse, la domination masculine l'humilie et il contre-réagit, il surréagit en affirmant une sorte de virilité, parodique, violente, ultra-violente.
Il y a même des viols collectifs à un moment donné où il est jeune violoniste. Ça se passe surtout d'ailleurs dans ses premières années. On a l'impression que c'est vraiment autour de 18 ans, 20 ans que ça arrive.
En fait, si on repère bien les moments de violence, c'est lorsque Casanova lui-même est socialement humilié. Typiquement, lorsqu'il retourne à Venise et qu'il devient violoniste, il se retrouve à une place sociale qui est encore inférieure à celle qui était celle de ses parents, c'est-à-dire qu'un violoniste, c'est quelqu'un qui est encore plus mal vu qu'un comédien, et donc il est un moins que rien, et c'est dans cette situation de moins que rien que réellement, par une sorte de cercle vicieux, il en vient à commettre des actes que lui-même trouve ignobles. Et le plus intéressant quand même, lorsqu'on lit ces passages, c'est toujours de se souvenir que n'importe qui d'autre les aurait simplement passés sous silence. Donc le fait même que Casanova raconte à quel point il est allé loin, justement dans l'horreur et l'abomination la plus absurdement viriliste, montre quand même que il est dans un double jeu par rapport à sa propre histoire, c'est-à-dire qu'il est capable de se dénoncer lui-même avec une sincérité troublante.
Alors dans ses jeunes années, c'est les années où il est ecclésiastique, enfin il pense en tout cas faire une carrière dans l'Église. Il y a plusieurs allers-retours finalement entre Venise et ailleurs, notamment dans la suite de l'évêque Bernardis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce moment de la vie de Casanova, Maxime Revers?
En gros, c'est une première trajectoire tout à fait logique, c'est-à-dire fils de comédien, il est bientôt confié à des gens qui savent lui donner une bonne éducation, et étant donné le milieu, il est naturel qu'une bonne éducation mène à une carrière ecclésiastique. D'autant que sa mère obtient des soutiens, justement, d'hommes d'église qui permettent de penser qu'il sera bien accompagné dans cette carrière-là. Évidemment, ça tourne court, non pas parce que Casanova l'aurait rejeté, mais plutôt parce que à Rome, ces intrigues amoureuses qui commencent à se développer prennent une telle ampleur que on lui recommande malgré tout de penser à d'autres carrières où justement ses goûts pour les frivolités seraient moins encombrants.
Il y a un moment où il va à Naples et il se rend compte que tout de même cette ville de Naples n'est pas pour lui, et il préfère du coup quitter l'Église, revenir à Rome parce que son mode de vie finalement est plus important que tout le reste.
Oui, voilà, je crois que cette histoire de carrière ecclésiastique, c'était d'abord, il y a des choses qui lui ont plu, hein, porter la robe, ça lui plaisait, je crois que faire des sermons, ça lui plaisait, faire de grands discours publics, il y avait des avantages en fait à cette vie, mais en même temps, il y a des aspects de l'esthétique casanovienne, c'est-à-dire des besoins de son corps, si l'on veut, mais même de la vie telle qu'il se la représentait, qui n'était pas satisfait dans cette carrière ecclésiastique. Alors, à partir de là, il va s'imaginer se lancer dans une carrière militaire. Il va partir à Constantinople, qui est en fait un lieu qui paraît aujourd'hui très exotique, mais qui est courant pour les Vénitiens. Il y a des passerelles très fortes entre Venise et Constantinople à l'époque. Et en réalité, c'est pour lui un moment de doute, en fait, puisque c'est tout l'avenir qui s'ouvre devant lui. Et je crois qu'à Constantinople, il commence à faire l'essai de ses capacités à évoluer dans un milieu social qui n'est pas le sien, tout en se faisant plus ou moins reconnaître comme l'un des membres, je dirais, de cette société.
Alors, il faut parler d'une jeune fille, une Française, qui s'appelle Henriette, et qui est certainement le grand amour, si ce n'est de la vie, au moins de la première partie de la vie de Casanova. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, Henriette ?
Alors, il faut dire que dans notre conversation, elle intervient justement au bon moment, puisque c'est par Henriette que Casanova va découvrir sa vocation, ou plus exactement, qu'il va apprendre à assumer un mot, un nom qui est une sorte d'insulte à l'époque, mais que Henriette assume pleinement, c'est celui d'aventurière, aventurier donc pour lui. Et donc cette vie d'aventure, pour Henriette, qui ne dit pas d'où elle vient, qui ne donne pas le nom de sa famille,
qui ne dit pas où elle va non plus,
et qui vit avec Casanova, qui a quelques années de moins qu'elle, ils ont tous les deux, je dirais, entre 24 et 27 ans, hein. Ils vivent une histoire d'amour extrêmement forte, intense, mais en même temps voilée par cet inconnu qu'est Henriette. Casanova découvre en elle une forme de liberté dont il n'avait pas encore l'expérience. Alors Henriette, c'est l'incarnation de cette vie rêvée qui d'un coup prend la forme d'un individu réel, qui est une femme réelle en face de lui et qui a toutes les qualités que lui valorise.
Tous les talents, qu'ils soient artistiques, elle joue par exemple de la musique à la perfection, elle est capable de l'étonner à chaque instant.
Elle est capable de passer d'un sexe à l'autre puisqu'elle sait s'habiller en homme, mais également s'habiller en femme, mais en même temps elle ne valorise pas la coquetterie tout en sachant se parer de ses plus beaux atours. Elle est extraordinaire musicienne, mais lors du concert qu'elle donne, elle fait des éloges et des compliments en suggérant que finalement elle ne joue si bien que parce que le violon est extraordinaire. Donc elle a une délicatesse comme ça, une noblesse de mœurs et de pensée qui subjugue complètement le jeune Giacomo.
Et pourtant, ils doivent se quitter. Ils savent que les 4 mois qu'ils passent ensemble ne pourront pas durer davantage.
Casanova ne maîtrise pas du tout ce timing et va devoir accepter en fait que Henriette dicte le rythme et marque elle-même la fin de leur histoire. Je crois que c'est l'un des moments les plus douloureux de la vie de Casanova. On le sent réellement profondément bouleversé au moment même où ils racontent leur séparation. Et évidemment, il y a cette scène sublime où, en fait, après avoir accompagné le traîneau qui emporte Henriette loin de lui, on est en plein hiver, la scène se passe en Suisse, et Casanova remonte dans la chambre et il découvre sur la fenêtre une petite phrase écrite au diamant « Tu oublieras aussi Henriette ».
On va continuer de raconter avec vous la vie de Casanova, Maxime Rovert, mais pour l'heure, c'est le moment de la chronique. Elle vous est proposée aujourd'hui par Tiphaine Samoyau.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tiphaine Samoyau de la revue en ligne En attendant Nado.fr. Bonjour Tiphaine.
Bonjour Mathieu.
Votre revue au sein de laquelle on peut lire notamment un article de Pierre Sange sur le livre de Denis Crouzet, Christophe Colomb, héros de l'Apocalypse, paru au PUF. De quoi s'agit-il ?
Oui, alors c'est l'occasion de parler d'une forme d'aventure, d'arpentage du monde et de problèmes d'écriture de la vie, comme celui qu'on traite aujourd'hui avec Maxime Rovert, puisque Christophe Colomb est tellement englué sous les légendes et les figures posthumes qu'il est très difficile d'écrire sa vie.
Alors, est-il autre chose qu'un grand navigateur?
Est-il autre chose qu'un grand navigateur? Arrive-t-on à en faire quelque chose d'autre que ce seul événement par quoi rétrospectivement on lit toute son existence. Alors on a demandé à Pierre Sange, donc l'écrivain Pierre Sange, de faire cet article parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Pierre Sange avait écrit il y a quelques années un roman qui s'appelait La Réfutation majeure, qu'il présentait comme un traité véritable d'un scientifique qui expliquait que l'Amérique n'avait jamais été découverte et que Colomb n'avait jamais découvert l'Amérique. Donc il remettait en cause dans son traité, qui avait tout à fait l'air d'un traité savant, mais qui était finalement une fiction lettrée, remettait en cause cette découverte, hein, qui devenait du coup une pseudo-découverte. Donc c'était amusant pour traiter ce problème, de demander à cet écrivain de parler de cette biographie. Et donc il salue dans l'auteur de cette biographie, donc Denis Crouzet, cette conscience, hein, de la difficulté à penser cette vie autrement que par rapport à sa destination finale ou à son destin rétrospectif. Et en même temps, il souligne aussi que l'auteur fait suivre sa biographie de 200 pages, qui sont donc d'un volume presque aussi important que le récit de la vie, 200 pages qui traitent des vies posthumes de Casanova.
Qu'il appelle modestement postface.
Postface ou coda. Mais une coda qui est presque aussi longue que le corps du texte. Et donc je ne résiste pas à vous lire les quelques lignes que Pierre Sange consacre à cette coda. Donc il se prolonge, le livre, par une coda modestement intitulée Postface, en vérité 200 pages vertigineuses, le catalogue exhaustif des avatars de Colomb depuis le jour de sa mort jusqu'à aujourd'hui, d'après le regard de ses interprètes, Colomb le héros, le colonisateur, l'audacieux, le génocidaire, le faussaire, le plagiaire d'Alexandre, le séfarade, le portugais, l'arménien, le basque ou l'arien. En 500 ans d'existence posthume, Colomb devient ce que Crouzet appelle une machine à penser, un fantôme ne cessant de chasser un autre fantôme de lui-même. Il va et vient, sans jamais parvenir à jouir du repos, condamné en quelque sorte à hanter un monde dans lequel il se fuit lui-même à force de transmutation. Donc c'est peut-être la destinée de toutes ces vies posthumes que nous racontons ici et ailleurs et dont nous nous repaissons aussi.
Également à la une du dernier numéro d'En attendant Nado, un article sur la nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile par Frédéric Boyer.
Donc une autre façon de parler de l'arpentage de la terre, donc une traduction qu'il intitule « Le souci de la terre », donc une traduction des Géorgiques. Donc Boyer, il est familier de rebaptiser les traductions de textes célèbres. On se souvient qu'il avait rebaptisé les confessions d'Augustin, les aveux. Cette fois-ci, de façon un peu malérienne, il traduit les Géorgiques par « Le souci de la terre ». On a un peu l'impression que c'est Virgile revu par le développement durable. Mais en réalité, sa traduction est très forte parce que c'est aussi une volonté d'actualiser évidemment un texte et de montrer à quel point le travail de la terre à ce moment-là est une guerre, et c'est cette guerre sans doute que nous payons aujourd'hui. Et il le fait avec une traduction très très audacieuse et extrêmement vivante, en vers libre. Pour donner juste un exemple, là où les traductions précédentes traduisaient par « il n'y a pas de place pour la mort », il traduit par « il n'y a pas de lieu dans la mort ». Donc ce qui évidemment est tout à fait permis par la grammaire latine, mais qui ne dit pas du tout la même chose et qui ne porte pas la même vision du rapport au monde et à la nature. Donc moi je trouve important de parler de ces revivifications des textes anciens par le travail des traducteurs, surtout lorsqu'ils sont aussi talentueux eux-mêmes des écrivains.
Et vous nous le conseillez à la lecture, tout comme nous vous conseillons, chers auditeurs, la lecture de En attendant Nadeau.fr. À très bientôt. C'est la Compagnie des auteurs que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture. Nous voyageons aujourd'hui en Europe dans les bagages de l'écrivain Giacomo Casanova. Et c'est Maxime Rovert qui nous raconte aujourd'hui sa vie à partir de la biographie qu'il a fait paraître dans la collection Folio. Il y a des épisodes marquants de sa vie de jeune homme à Casanova. C'est le moment, évidemment, de son arrestation. On l'écoute raconter par Casanova, mais également dans la voix de Stanislas Nordet.
Messer Grande entra dans ma chambre, me réveillait. Le voir et l'entendre me demander si j'étais Jacques Casanova fut l'affaire du moment. D'abord que je lui ai répondu que j'étais le même qu'il avait nommé, il m'ordonna de lui donner tout ce que j'avais décrit, soit de moi, soit d'autres, de m'habiller et d'aller avec lui. Lui ayant demandé de la part de qui il me donnait cet ordre, il me répondit que c'était de la part du tribunal. Le mot tribunal me pétrifia l'âme, ne me laissant que la faculté matérielle nécessaire à l'obéissance. Mon secrétaire était ouvert, tous mes papiers étaient sur la table où j'écrivais. Je lui ai dit qu'il pouvait les prendre, il remplit un sac qu'un de ses gens lui porta. Et il me dit que je devais aussi lui consigner des manuscrits reliés en livres que je devais avoir. Je lui ai montré le lieu où ils étaient, et pour l'or, j'ai vu clair que le metteur en œuvre, Manuzzi, avait été l'infâme espion qui m'avait accusé d'avoir ces livres. Ceux qui savaient que je possédais ces livres me croyaient magicien, et je n'en étais pas fâché. Messer Grande me prit aussi les livres que j'avais sur ma table de nuit, Arioste, Horace, Pétrarque, et le petit livre des postures lubriques de l'Aretin. Tandis que le Messer Grande moissonnait ainsi mes manuscrits, mes livres et mes lettres, je m'habillais machinalement, ni vite, ni lentement. J'ai fait ma toilette, je me suis rasé. J'ai mis une chemise à dentelle et mon joli habit, tout sans y penser, sans prononcer le moindre mot, et sans que Messer, qui ne m'a jamais perdu de vue, osa trouver mauvais que je m'habillasse comme si j'eusse dû aller à une noce.
Qu'est-ce qui fait que Casanova est arrêté? Est-ce que c'est seulement pour ses mœurs dissolues, Maxime Rovert?
Le plus fort, c'est que lui ne le sait pas et nous ne le savons pas, parce qu'à l'époque, à Venise, le gouvernement des 10, le conseil des 10 plus précisément, a le pouvoir de faire arrêter et de faire mettre sous les plombs des gens sans procès et sans justifier de sa décision. Et l'une des choses qui va rendre le séjour de Casanova, j'allais dire le court séjour, mais 16
tout
mois, il faut les passer.
Oui, 16 mois, ouais.
Mais enfin, le séjour de Casanova angoissant, c'est précisément qu'il ne sait pas ni pourquoi il est là, ni pour combien de temps. Alors aujourd'hui, on en débat encore. C'est vrai que dans la scène qu'on vient d'entendre, Casanova lui-même essaye de donner quelques pistes, quelques indications. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il exerce ses talents de magicien charlatan depuis quelque temps à Venise. C'est une explication possible. C'est vrai qu'il a des ouvrages dans sa bibliothèque qui sont à l'index depuis bien longtemps, donc ils sont interdits. Mais tout ça, ce sont des prétextes, puisque évidemment, c'est le lot de tous les lettrés de Venise. Les lettrés de Venise s'intéressent volontiers à la magie. D'ailleurs, c'est pas du tout un phénomène limité à l'Italie. Pendant toute l'Europe, pendant toutes les Lumières, l'Europe se passionne pour les sciences occultes. Ça vient aussi du fait de la perte d'influence de l'Église en tant qu'institution. On cherche d'autres formes de spiritualité. Et de la même manière, comme je l'ai dit, Venise, c'est un grand lieu, c'est le grand lieu de l'Europe dédié au plaisir. Donc le fait que Casanova s'y livre n'est pas tout à fait original. En revanche, on finit par estimer aujourd'hui que ce qui est grave à l'époque, c'est le rapport qu'entretient Giacomo Casanova avec Bragadine, c'est-à-dire avec l'une des familles des patriciennes les plus importantes de Venise, dont Casanova est en train d'extraire des fonds de manière vraiment trop importante. Donc c'est un peu une fuite dans les liquidités de la famille Bragadine qui finit probablement par inquiéter les autorités qui mettent Casanova au plomb, probablement pour lui donner une bonne leçon.
Alors ça lui donne une bonne leçon parce que les plombs, ça vient du fait que le toit de la prison est recouvert de plomb, ce qui fait que l'été c'est une fournaise et l'hiver évidemment il fait extrêmement froid. Donc pour son corps même c'est une épreuve tout autant que pour son mental. Ça l'a profondément marqué, Maxime Revert.
Ça l'a profondément marqué. Je pense qu'il a détesté la solitude. Et puis en plus il faut voir que Casanova était quelqu'un de grand. Hein, dans des prisons petites, il y avait vraiment une sorte de contrainte physique, même s'il ne faut pas imaginer quand même quelque chose qui soit comparable aux prisons françaises du XXIe siècle, qui sont quelque chose qu'on ne souhaite à personne. Même les plombs au XVIIIe siècle, ça n'est pas non plus insupportable. Casanova a une table, on le laisse écrire, on lui donne accès à des livres. Voilà. Et donc, progressivement, il va sortir de sa torpeur. Mais ce qui est très intéressant dans le récit qu'il va donner de ces terribles mois, c'est effectivement l'écoute qu'il a de son corps. Il va décrire des aspects de cette incarcération qui sont absolument inacceptables socialement à l'époque. En particulier, il donne un détail très précis de la manière dont il urine, dont il reste constipé pendant quelques temps. Ces détails, en fait, qui relèvent vraiment de l'aspect organique socialement le moins accepté et que Casanova va mettre en avant comme étant le corps qu'on lui a enfermé, quoi. Et c'est ça qui est très beau, en fait, quand il va fuir des plombs dans des circonstances, je dois dire, encore aujourd'hui mal connu.
On a du mal à croire que c'est en trouvant un petit verrou, en le taillant d'une certaine manière, qu'il a réussi finalement à s'évader de cette prison tout de même bien gardée.
Il est possible qu'il y ait dans le récit de Casanova une part d'invention, mais comme il est aussi possible qu'il y ait une part d'exactitude, on finit par plus trop savoir. Et puis, comme je le disais en début d'émission, perd un peu le fil de la vérité parce qu'à un moment, on sent que la littérature est susceptible de prendre le relais pour nous amener à une autre vérité, d'un autre type, qui n'est pas une vérité factuelle, mais qui, quelque part, à travers des faits qui ne se sont pas exactement passés comme ça, à travers des déformations de l'histoire, eh ben, en réalité, révèle ce qu'un récit plus plat aurait en réalité masqué. Et donc en particulier, dans l'histoire de la fuite des plombs, il y a tout le rapport de Casanova avec le, on en parlait tout à l'heure, avec l'occasion, avec le hasard, avec le cosmos, puisqu'en fait minuit sonne au moment exact où il sort dans les où il apparaît sur les toits, et puis en même temps avec le, je dirais, l'idée même de destin, puisque on l'a entendu dans la scène tout à l'heure, au moment de d'être incarcéré, Casanova, dans une sorte de coup de génie, décide de s'habiller magnifiquement, et c'est justement le fait qu'il dispose de ses habits magnifiques qui va le sauver au moment de s'évader, puisqu'il va s'habiller de nouveau comme quelqu'un qui sort d'une fête, et il va pouvoir sortir du palais librement.
Donc il ne retournera pas à Venise avant de très nombreuses années, il va partir à Paris, et là ce sont finalement les années fastes de Casanova.
Tout à fait. En réalité, le fait d'avoir fui les prisons de Venise, pour les Français, c'est un haut fait. Parce que les Français détestent Venise en tant que république, donc pour eux, c'est le règne de l'arbitraire là-bas. Et donc, être emprisonné à Venise, c'est plutôt à la faveur de Casanova. En avoir fui, c'est encore mieux. Et donc, sur les conseils de Berny, qui est son grand ami depuis Venise et qui est désormais ministre des Affaires étrangères, Casanova va écrire le récit de son évasion et en fait s'en servir, pour ainsi dire, comme carte de visite. Et à partir de là, il va pouvoir participer à tout un tas d'entreprises folles, notamment la création de la Loterie Nationale. Et c'est à cette occasion qu'il va tout d'un coup, de pauvre, malheureux, isolé qu'il était dans sa prison, tout d'un coup se transmuer en un bourgeois de Paris riche et bien en vue.
De Paris et d'ailleurs, parce qu'il va partir ensuite en Hollande. Ce sont à peu près deux décennies de voyages qui s'ouvrent aussi à ce moment-là, enfin des voyages et des installations dans certaines villes d'Europe.
Oui, mais pas nécessairement sur le mode justement qu'on s'imagine être celui du voyageur toujours avide de découvertes. C'est aussi quelqu'un qui est toujours en train de fuir quelque chose. Hein, il a fait une arnaque et il est temps de s'enfuir. Il a contracté des dettes et à nouveau on va bientôt le récupérer. Donc les déplacements de Casanova sont à la fois extrêmement joyeux et pleins d'entrain. Il y a toujours cette idée de suivre le dieu, suivre là où la vie l'appelle. Mais il y a aussi, au-delà des appels, il y a la loi qui pousse derrière et qui fait que Casanova ne peut pas non plus rester trop longtemps en place.
Est-ce qu'il y a aussi des femmes? Est-ce que sa vie amoureuse le conduit d'une ville à une autre?
Alors, c'est possible, mais c'est savamment masqué par l'histoire de ma vie. Typiquement, vous parliez de la Hollande, il est possible qu'il ait été appelé en Hollande par l'une de ses anciennes maîtresses, justement pour lui faire reconnaître une paternité qui d'ailleurs est assez soumise à caution. Curieusement, Casanova en parle, mais il n'en parle pas comme une cause de son déplacement. Or, toute la difficulté justement de l'histoire, de restituer cette histoire, c'est de savoir où sont les causes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est rarissime que les femmes soient causes, parce qu'en réalité, le plus souvent, il se détache d'elles parce qu'il n'a pas les moyens, je dirais, financiers et sociaux de leur offrir le cadre où elles pourraient survivre.
Et pourtant, des moyens financiers, il y a certains moments où il en a beaucoup, mais on ne sait jamais très bien, et les historiens, encore aujourd'hui, ne savent pas très bien d'où vient tout cet argent.
Voilà, alors il y a un très beau moment qui est à la fois littéraire et à nouveau qui semble avoir correspondu à quelque chose, qui est la grande arnaque que Casanova monte pour la marquise d'Urfé, qui est une vieille dame éprise de cabale et de magie, et qui va entrer avec lui dans une sorte de délire au cours duquel il va progressivement reproduire ce qu'il avait déjà réussi avec Bragadine, c'est-à-dire à vivre au crochet d'une personne tout en lui proposant des rêves complètement fous.
C'est-à-dire l'immortalité quand même.
Alors dans le cas de Madame d'Urfé et dans le récit que en donne l'histoire de ma vie, qui est peut-être une variante embellie de l'arnaque telle qu'elle a réellement été menée, mais dans le récit de l'histoire de ma vie, ce qu'il promet à Madame d'Urfé, c'est de effectivement de la faire accéder à l'immortalité en la faisant changer de corps.
Oui. Alors comment va-t-il organiser ça?
Alors c'est assez complexe parce qu'il lui faut des complices, il faut donc une jeune femme, un jeune homme, enfin il mobilise comme ça tout un aréopage de complices pour faire en sorte que lors d'une nuit qui est censée être justement correspondre à un alignement d'astres tout à fait improbable, Madame Durfé passe d'un corps à l'autre.
En fait, aspirant l'âme finalement d'un jeune garçon, plus ou moins.
Ouais, en faisant passer son âme à elle de l'un vers l'autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, il lui fait une démonstration, justement à l'aide de deux comédiennes, dont l'une plus vieille apparaît, puis hop, et puis l'autre s'y substitue. Donc, la vieille dame qui observe le miracle est absolument convaincue, donc elle se laisse endormir. Évidemment, une fois qu'elle est endormie, ben on lui subtilise son coffre et ses trésors, et puis tout le monde s'en va en quatrième vitesse.
Alors il y a tout un tas de rencontres aussi qui vont jalonner cette deuxième partie de la vie de Casanova. Il va voir Rousseau. Alors là, il est assez déçu finalement par le philosophe.
Oui, aujourd'hui on pense que cette visite n'a jamais eu lieu parce que si l'on observe le récit de l'histoire de ma vie, le degré de précision diminue lors de la visite à Rousseau, et c'est en général l'indice d'un épisode inventé. Lorsque Casanova reprend ses notes, en réalité, ses notes sont toujours très précises et très minutieuses, et donc c'est un indice comme ça qui permet d'évaluer la probabilité de la rencontre.
Et pourquoi aurait-il dit, du coup, qu'il avait peu aimé l'attitude de Rousseau alors qu'il ne l'aurait pas rencontré? Est-ce que ça signifie quelque chose?
Oui, ça peut être une sorte de témoignage de je dirais, un parti pris, un choix dans le camp qui oppose Voltaire et Rousseau. Et évidemment, la rencontre avec Voltaire est beaucoup plus probable. Et même si Casanova, on a donné plusieurs versions, même si on voit que la manière dont ils racontent leurs échanges est extrêmement retravaillée, et que c'est malgré tout une sorte de morceau de bravoure littéraire que le récit qu'il en donne, et bien malgré tout, on voit bien que la différence est nette entre l'échange avec Voltaire et l'échange avec Rousseau. Je crois qu'il y a chez Rousseau aussi une sorte de génie philosophique que Casanova admire en réalité, mais auquel il n'ose pas se confronter. Alors que avec Voltaire, il y a un critique de la musique et des lettres italiennes avec lequel il peut entrer directement en confrontation. Donc je crois qu'il y a aussi dans l'originalité de la personne de Rousseau, c'est-à-dire dans cette manière de rejeter les conventions sociales, quelque chose qui froisse Casanova. Casanova, c'est quelqu'un qui est, on l'a dit, en partie un dominé du système social, mais qui a appris à en jouer et qui ne comprend pas qu'on puisse complètement vouloir le renverser. D'ailleurs, il va être un opposant très farouche à la Révolution française.
Et on en parlera sans doute jeudi avec Chantal Thomas, de la même façon qu'on parlera de l'épisode de la Charpillon, qu'on n'a pas le temps de développer ici. Est-ce qu'on peut dire, puisqu'on s'achemine vers la fin de cette émission, Maxime Rovert, que la seconde partie de la vie de Casanova s'est de plus en plus tournée vers les lettres, s'est de plus en plus tournée vers une intériorité?
Oui et non. Oui, au sens où il est clair que à partir de son second séjour en France ou de son troisième séjour en France, Casanova va prendre du temps pour écrire. Hein. Et là, il va commencer à développer de vrais projets littéraires, des projets historiques, des projets.
Bon, il va traduire l'Iliade.
Voilà, exactement.
On le sait pas souvent, ça. Enfin, on le dit pas souvent.
On parlait de Frédéric Boyer tout à l'heure, et ça, c'est un vrai enjeu, ça, la traduction des classiques. Parce qu'il est passé en Angleterre aussi, il a vu la réputation de Pope, et donc il a envie de connaître quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, je résiste à cette idée qu'il y aurait donc une première étape de la vie qui aurait été simplement vécue et une deuxième qui aurait été consacrée à l'écriture. Parce qu'en réalité, il faut s'imaginer que depuis tout jeune homme, il note ce qu'il vit. Donc c'est un peu comme Proust, c'est-à-dire ce sont ces écrivains nés qui depuis le début savent la valeur des détails et ils vont les noter en permanence en vue d'une œuvre dont ils ne peuvent pas mesurer l'ampleur au moment où ils prennent leurs notes, mais qui un jour va apparaître. Et c'est ça qui se passe dans la vie de Casanova.
Toujours est-il que c'est comme bibliothécaire au château de Dux en Bohême qu'il va terminer ses jours. Il meurt le 4 juin 1798. Il est donc mort de vieillesse. Il ne s'est pas suicidé puisqu'il avait parfois sous-entendu que ce désir avait pu l'effleurer.
Ouais, en fait, il s'est suicidé en littérature, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que le vrai moment où la vie bascule, c'est lorsque, enfin, au lieu d'imaginer des romans, au lieu de sans cesse se référer à des figures littéraires qu'il admire, Casanova ne se réfère plus qu'à lui-même, raconte sa propre vie, ne la raconte que pour lui-même, et donc enfin cesse de vivre pour revivre à nouveau en littérature.
Merci beaucoup, Maxime Revert. Je rappelle que vous enseignez la philosophie à l'université de Rio de Janeiro, que votre biographie de Casanova a paru en 2011 dans la collection Folio Biographie et que votre dernier essai, Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même, vient de paraître, c'est chez Flammarion. C'était La Compagnie des Auteurs, une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Nasser Moussaoui. Demain, au deuxième jour de notre thématique Casanova, nous parlerons plus spécifiquement de l'œuvre de l'écrivain. Mais tout de suite, c'est le moment de retrouver la poésie et Jacques Bonafé.
Qu'il me soit permis d'abord, avant de vous entretenir de l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, et ce sentiment, j'en suis sûr, sera partagé par vous tous, qu'il me soit permis, dis-je, de rendre justice à l'administration supérieure, au gouvernement, au monarque, messieurs, à notre souverain, à ce roi bien-aimé, à qui aucune branche de la prospérité publique ou particulière n'est indifférente, et qui dirige à la fois d'une main si ferme et si sage le char de l'État, parmi les périls incessants d'une mer orageuse, sachant d'ailleurs faire respecter la paix comme la guerre, l'industrie, le commerce, l'agriculture et les beaux-arts. Vous le voyez, notre semaine débute sous la férule de Gustave Flaubert dont nous constatons l'insolente actualité dans ce discours des comices agricoles tiré de Madame Bovary. Malgré tout, comme nous dit Jérôme Leroy dans Nager vers la Norvège, malgré tout, quand on sortait de la gare et qu'on descendait vers la ville par le boulevard Barra, Palaiseau sentait le jasmin. Le 18 mai 2017, vers 1h de l'après-midi. Il faut savoir dater aussi son plaisir d'être au monde, malgré tout. Le livre « Nager vers la Norvège » paru à la table ronde égrène des noms de villes et ses regrets, son regret des vieux chemins de fer. Il faut savoir dater la tristesse, disait Baudelaire. C'est l'auteur qui s'en souvient lors d'une halte à Annemasse. La seule bonne nouvelle, là je vais à la page 25. Et il lui vint l'idée, alors qu'il se promenait le long de la Save, entre Lombez et Samatan, et que la tour de la cathédrale s'éloignait en vibrant dans la chaleur, que la seule bonne nouvelle pour l'humanité depuis 10-15 ans, disons, était la réapparition des coquelicots. Je vous salue quand même, ma France. Autre poème. Je ne suis pas français. Je ne suis pas français par le sang. Évidemment, je suis français par une certaine aptitude à la mélancolie, par le goût de la distance, de la langue, par les toits de l'Auze en Corrèze, et par les colombages des longères du pays de Caux, par des désirs fous de révolution et d'égalité, par le calme d'éternité des après-midi de juillet, sur une chaise longue dans le jardin clos de mon enfance. Je ne suis pas français par l'UE et le numérique, je suis français par le gris des yeux de mon premier amour et par le rouge des cartes du parti, par les départementales qui ne mènent nulle part, par la vitrine d'un bouquiniste dans une sous-préfecture endormie. Je suis français par le baiser de la naïade à Versailles en automne. Je suis français par le temps. Je suis français.
Jacques Bonafé qui lit cette semaine des extraits de Nager vers la Norvège de Jérôme Leroy.